de l'Ouest Hurlant, le festival des cultures de l'imaginaire.
Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être très nombreux, c'est-à-dire salle comble, pour cette conférence pour évoquer l'héritage de Pierre Bottero. Donc, je suis accompagnée ici par un panel d'invités qui pourra vous partager des souvenirs, des impressions, des analyses de qui était et qu'est-ce qu'a pu nous apporter Pierre Bottero. C'est un auteur jeunesse qui a laissé une trace forte dans la littérature adolescente, mais aussi dans la littérature fantasy à la française, notamment connu pour La quête des Willan. Et 15 ans plus tard, après sa disparition, qu'est-ce qu'il nous reste de son héritage? Voilà ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui avec mes quatre invités. Donc, je vais faire de gauche à droite. J'ai d'abord Hermine Lefebvre. Donc, je vais te laisser prendre le micro et te présenter. Merci.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Hermine Lefebvre, autrice de fantasy young adult, avec des romans qui sont souvent assez sombres, un peu passerelles vers l'adulte. Je mets souvent en avant des personnages qui échappent aux normes habituelles des héros et qui sont souvent plutôt sur les spectres handy, queer, etc., neurodivergents. Et mes derniers romans, j'ai sorti il y a tout pile un mois, donc La Cité oubliée chez Scrineo, qui met en scène une Venise fantastique. C'est une sorte d'Indiana Jones queer, où on cherche une cité engloutie à Venise. J'ai également publié Cathédrale, qui est chez Léa, donc qui se passe dans un monde 19e siècle, dans une école. Donc là, c'est une quête magique. Dans une école avec un côté assez sombre, et également chez Scrineo, Sous le sceau de l'hiver, qui se passe dans notre monde contemporain, avec des fées. Voilà.
Merci beaucoup. Et donc, à sa droite, c'est bon. Je suis pas très bien latéralisée. Laetitia Danaé. Donc, je te laisse la parole.
Bonjour, je m'appelle Laetitia Danaé, j'ai 34 ans, je suis une très grande lectrice depuis l'âge de 11 ans, et j'ai commencé à écrire à 15 ans et très sérieusement à 21 ans, donc c'est vous dire à quel point je suis vieille et que j'écris depuis longtemps. Et je me spécialise dans la fantasy, et tout particulièrement la fantasy qui touche à différentes cultures. J'aime beaucoup piocher dans des cultures plutôt exotiques afin de nourrir mes intrigues et mettre en place mes univers. Et donc j'ai écrit ma dernière saga parue est en Fleur de Co, que tu brandis si fièrement. Fleur de Co, qui est une fantasy africaine. Donc inspiration africaine, Afrique imaginaire. J'ai écrit également une duologie de fantaisie orientale publiée aux éditions Plume Blanche et une duologie également plutôt fantastique qui touche au mythe de la Santa Muerte, donc le mythe mexicain, pardon. Et enfin, ma toute première saga, qui a bien vieilli, évidemment, ma trilogie Lune Pourpre, publiée aux éditions Snack Fiction. Donc là, on est plus dans de la fantasy médiévale, d'où mes inspirations très fortes de Pierre Bottero. Et voilà.
Merci beaucoup. Et ensuite, on va changer de profil, si je puis dire. Florie Morin, je te laisse te présenter.
Oui, je suis Florie Morin, je suis docteur en littérature, docteur et chercheuse donc, et je suis spécialisée sur les littératures ados. Et j'ai fait une thèse sur les œuvres de Pierre Bottero précisément au sujet des personnages féminins. Et récemment, j'ai donc participé à un ouvrage qui a été donc publié chez Rajo fin octobre, qui s'intitule « Sur les traces des Willan », qui est dirigé par Tom Lévesque et qui rassemble différentes contributions. Donc on va à la fois y trouver des témoignages de lecteurs et de lectrices, des citations, des analyses aussi de chercheurs et de chercheuses, des illustrations, enfin voilà, pas mal de choses. Et mis à part ça, je tiens aussi un carnet de recherche qui s'appelle Fantasy Jeunesse, sur lequel j'essaie de promouvoir le plus possible la fantasy jeunesse, les littératures de jeunesse et de l'imaginaire, et de partager aussi ce qui se fait au niveau de la recherche sur ces sujets.
Et enfin, encore un autre profil parmi nous, Guylain Denoé, dis-nous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis éditeur chez Rajo et depuis un certain temps, donc j'étais un jeune assistant d'édition à l'époque quand Pierre nous a envoyé ses premiers manuscrits. Voilà. Et donc, ça fait exactement 20 ans, enfin, ça faisait 20 ans l'année dernière, en 2023, c'était l'anniversaire de la parution du premier tome, des deux premiers tomes de la quête des Whelan. Et donc, Florian a très bien parlé. Nous avons souhaité avoir effectivement, d'une part, évidemment, des actions commerciales pour remettre en avant l'œuvre de Pierre Bottero, en espérant la faire découvrir à une nouvelle génération, et puis aussi avoir un temps de réflexion sur, sur son œuvre et de mise en perspective à la faveur de, cette, de cet anniversaire. Voilà. Donc ça a donné ce livre sur les traces des Whelan, dont vous avez peut-être déjà entendu parler.
Ça a l'air. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos présentations. Donc, on va pouvoir commencer. Je vous avais donné des devoirs avant de venir ici, de choisir un petit extrait, si vous étiez prête à le lire. Je proposerais, Laetitia, que tu commences comme ça. C'est Linky Pit.
Camille était âgée exactement de 4900 jours. Soit un peu plus de 13 ans, la première fois qu'elle effectua le pas sur le côté. Elle en était certaine, puisque c'est au moment où elle entreprenait des calculs savants pour connaître son âge avec précision, qu'elle descendit du trottoir sans s'en rendre compte et se retrouva au milieu de la chaussée, face à un énorme camion. Elle fut tirée de sa rêverie mathématique par le mugissement du klaxon. Le poids lourd fonçait droit sur elle, tout frein bloqué. Les pneus, malmenés, hurlaient, leurs gommes fumantes essayant vainement d'arrêter les 30 tonnes du monstre. Camille se figea sur place, incapable du moindre mouvement, tandis que son esprit de jeune surdoué analysait la situation. Malgré elle, elle nota qu'elle était remarquablement stupide de passer les dernières secondes de sa vie à regarder arriver un camion. Son irrépressible curiosité l'empêcha de fermer les yeux, et elle n'eut pas le temps de crier, ce qu'elle aurait adoré faire. Non, Camille ne cria pas. Elle se prit simplement les pieds dans une racine et tomba de tout son long dans l'herbe, le nez à quelques centimètres d'un superbe bolet. « Boletus edulis », remarqua-t-elle à haute voix, car elle était friande de champignons et parlait volontiers le latin. Un petit scarabée à la carapace bleue turquoise passa près de son visage. Il se dirigeait vers le tronc et de l'énorme pin qui les dominait, et Camille le suivit distraitement des yeux. Elle ne se trouvait plus au milieu de la chaussée, mais dans une forêt plantée d'arbres immenses.
Merci. Et oui, c'est comme ça qu'on plonge dans la quête des Whelan, tout de suite en découvrant Camille... et l'univers dans lequel elle nous emporte. Hermine, on fait un saut de 7 tomes en avant sur la quête, c'est-à-dire que la quête des Whelan se constitue de 3 trilogies. Et Hermine nous a choisi un extrait de Elana. Et donc, attends, c'est bien le premier, hein ?
Oui.
C'est bon, merci.
Donc, il s'agit du premier tome du Pacte des Marchombres, Elana. Et j'ai choisi le passage où Elana est présentée au Conseil des Marchombres et où elle est interrogée par la vieille Marchombre Erlim pour savoir si elle peut arpenter la voie. Et donc je vais vous lire le dialogue. « Jeune Elana, je vais te poser une série de questions. À ces questions, tu devras répondre dans l'instant, sans réfléchir, en laissant les mots jaillir de toi comme une cascade vive. Les mots sont un cours d'eau, la source est ton âme. C'est en remontant tes mots jusqu'à ton âme que je saurai discerner si tu peux avancer sur la voie des marchombres. Es-tu prête ? Oui. » Une esquisse de sourire traversa le visage ridé d'Erlim. Qu'y a-t-il au sommet de la montagne ? Le ciel. Que dit le loup quand il hurle ? Joie, force et solitude. À qui s'adresse-t-il ? À la lune. Où va la rivière ? L'anxiété d'Elana s'était dissipée. Les questions d'Erlim étaient trop imprévues, se succédaient trop rapidement pour qu'elle ait d'autres solutions qu'y répondre ainsi qu'on le lui avait demandé. Impossible de tricher. Cette évidence se transforma en une onde paisible dans laquelle elle s'immergea, laissant Erlim remonter le cours de ses mots jusqu'à son âme, puisque c'était ce qu'elle désirait. Remplir la mer. À qui la nuit fait-elle peur ? À ceux qui attendent le jour pour voir. Combien d'hommes as-tu déjà tué ? 2. Es-tu vent ou nuage ? Je suis moi. Es-tu vent ou nuage ? Vent. Méritait-il la mort ? Je l'ignore. Es-tu ombre ou lumière ? Je suis moi. Es-tu ombre ou lumière ? Les deux. Où se trouve la voix du marchombre ? En moi. Elana s'exprimait avec aisance, chaque réponse jaillissant d'elle naturellement, comme une expiration après une inspiration. Fluidité. Le sourire sur le visage d'Erlim était revenu, plus marqué, et une pointe de jubilation perçait dans sa voix ferme. Que devient une larme qui se brise? Une poussière d'étoiles. Que fais-tu devant une rivière que tu ne peux pas traverser? Je la traverse. Que devient une étoile qui meurt? Un rêve qui vit. Offre-moi un mot. Silence. Un autre, harmonie. Un dernier, fluidité. L'ours et l'homme se disputent un territoire. Qui a raison? Le chat qui les observe. Marie tes trois mots, marche ombre. Erlim se tut. Son sourire avait disparu et son regard noir indéchiffrable était toujours braqué sur Elana. Pendant un long moment, le silence régna sur la pièce, puis la vieille femme s'inclina, avec respect. Sois la bienvenue, jeune Elana. Puisses-tu longtemps arpenter la voie des marches ombres.
Merci beaucoup. Avant de vous demander à tous les deux de passer aux éléments de lecture, je voulais poser quelques questions. Guilin, je me posais une question parce que quand Pierre Bottero a commencé à envoyer son manuscrit à Rajo, Rajo ne faisait pas beaucoup ou pas du tout de trilogie. Il me semble, pas beaucoup de fantasy. Alors pourquoi Pierre Bottero? Comment il s'est retrouvé dans votre catalogue puisqu'il ne collait pas vraiment à ce que vous faisiez à l'époque?
Alors, il nous avait en fait envoyé, il a commencé par écrire des romans réalistes hein, en répondant à un appel à concours qui était organisé par Flammarion. Et en fait, il avait envoyé à différents éditeurs le texte qu'il avait écrit. Et il se trouve que nous, on avait été pas très rapide pour répondre. Et donc, quand la directrice de la maison, Caroline Westberg, l'a appelé, il lui a dit « Ah, mais mon roman paraît dans 2 mois chez Flammarion. » Donc, elle a une réaction assez drôle, c'est de ne pas être très contente, parce qu'on avait donc pris du temps pour le lire, pour lui faire une réponse, et donc pour apprendre qu'on arrivait un peu tard. Le contact était établi, pas en partant d'un très bon pied. Je crois qu'elle dit dans l'une des interviews sur les traces de Pierre Bottero qu'elle, c'est évidemment vrai que on est assez attentif au lien qu'il y a entre un auteur, une autrice et son éditeur. Donc, le lien de fidélité est important. Donc, on n'a pas du tout envie d'aller démarcher un auteur qui commençait sa carrière chez Flammarion, quel que soit le talent qu'on pouvait lui prêter. Et en fait, simplement parce que Flammarion n'a pas été intéressé par ce projet, effectivement, de trilogie, donc ce qui induit quand même un investissement important, parce que si un premier tome ne marche pas, c'est-à-dire que l'éditeur s'est engagé sur les tomes suivants. Et peut-être que le genre aussi ne faisait pas partie de leurs envies de publication. Et nous, bah, simplement, on l'a lu, ça ne correspondait pas non plus à nos habitudes de publication, ça ne correspondait absolument pas à quelque chose qu'on aurait recherché. Simplement, on a eu une conviction, une intuition, voilà. Et il se trouve que ça a été un bon choix de lancer une trilogie avec un auteur qui certes venait d'être publié, mais en réaliste, en poche, et de manière relativement confidentielle, forcément, à l'époque. Alors, il y avait une mode du grand format depuis les succès des romans d'Harry Potter. Hein, le milieu était quand même assez, assez dynamique, mais nous, de fait, on ne s'était pas encore lancé en grand format. Alors, ça peut paraître étrange maintenant où tous les livres sont en grand format, mais il y a tout simplement des modes éditoriales, hein, des époques où... c'est le poche qui prédomine, et puis d'autres époques où c'est le grand format qui prédomine. Donc là, on était à un moment où le poche ou le semi-poche était vraiment la pratique la plus courante en librairie. Il y avait en grand format, c'était des livres pour adultes, c'était pas des livres jeunesse. Ça l'avait été 20 ans avant, mais ça ne l'était plus. Et depuis, ça l'est redevenu, et avec beaucoup de succès. Hein, on sait que dans l'édition, la bande dessinée et la jeunesse sont parmi les secteurs qui s'en sortent le mieux. Voilà. Donc en fait, c'est simplement de la chance hein, que Flammarion n'ait pas dit oui avant nous à Pierre Bottero.
Voilà. Merci. Florie, toi, tu as choisi de faire ta thèse sur Pierre Bottero. Donc on est au bout du parcours. Guilin, t'évoquais le tout début Voilà. Je me demandais pourquoi Botero, en fait. Qu'est-ce qui t'a fait choisir son œuvre et comme tu as traité des personnages féminins dans l'œuvre de Botero, est-ce que il y a un personnage plus une personnage plus qu'une autre qui t'a amené vers cet angle, surtout après les deux extraits qu'on a pu entendre, puisque voilà, on a eu un bref aperçu de Camille, donc aussi connue sous le nom des Willan, et d'Elana, qui sont quand même deux personnages pivots dans cette quête des Willan.
Alors, on s'engage rarement dans des processus de thèse qui vont être long, c'est minimum 3 ans, mais en littérature, c'est pas rare que ça prenne 4, 5, 6, 7 ans. Donc, généralement, on essaie quand même de choisir des œuvres qui nous plaisent parce qu'on sait qu'on va y passer un sacré bout de temps. Donc, moi, j'ai choisi les œuvres de Pierre Botero par pur plaisir. On a la chance aussi en littérature de généralement pouvoir choisir nos sujets, à quelques rares exceptions où on répond à des offres, mais souvent on les choisit. Donc là, j'avais pu mettre sur la table les œuvres de Pierre Botero, donc non seulement la quête des Willan, mais aussi les mondes des Willan, le pacte des mers sombres, Isayama, le chant du troll, l'autre et les âmes croisées, ce qui faisait un corpus assez gros hein, pour pouvoir faire une thèse. Et puis, l'autre raison, elle est plus pragmatique, enfin les moins émotionnels en tout cas, c'est qu'il n'y avait pas de thèse sur Pierre Botero qui avait été rédigée. Il y avait des thèses en fait qui étaient en cours, enfin il y en a qui le sont toujours, où Botero fait partie du corpus, mais souvent c'est au sein d'un corpus qui est vraiment large, donc on a des thèses de fantasy où Botero apparaît, mais au milieu de plein d'autres bouquins de fantasy. Au niveau des articles universitaires, il y avait aussi très peu de choses, enfin ça se comptait sur les doigts d'une main. Donc voilà, il y avait aussi une volonté de faire quelque chose d'original, le champ était libre, moi c'est quelque chose qui me plaisait, donc j'ai pu me lancer là-dedans à ce moment-là. Et ça me permettait aussi d'avoir une certaine liberté, parce que je n'étais pas influencée par plein de critiques, plein d'universitaires qui auparavant avaient déjà travaillé sur ces questions. C'est vrai que maintenant, si vous faites une thèse sur, je ne sais pas, sur Victor Hugo, j'ai rien contre Victor Hugo, mais vous allez forcément devoir lire toute la critique qui a déjà été faite sur cet auteur et sur le sujet que vous traitez, et nécessairement vous êtes aussi influencé. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. Moi j'aimais bien la grande liberté dont je disposais. Et au niveau du personnage, je pense que c'est plutôt pour Elana que j'avais envie de traiter ce sujet-là. Donc on en a eu un aperçu avec l'extrait qu'a lu Hermine. Et Elana est un personnage qui est très pratique aussi en termes d'analyse, puisqu'on la voit sur un temps qui est très long. On la voit au début du Pacte des Mers Sombres, elle a à peu près 5 ans, et puis on va la suivre sur son évolution, donc on a une progression vraiment qui s'instaure, et ça c'est super de pouvoir étudier ça, c'était vraiment, vraiment intéressant.
Merci. Toutes les deux, vous avez un regard peut-être plus de cœur, peut-être plus proche de celui des personnes qui sont dans la salle pour évoquer Pierre Botero. Je sais que vous avez des souvenirs de lecture, mais Hermine, il me semble que tu as aussi des souvenirs de rencontre avec la personne qui est derrière le livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, tout à fait. Du coup, moi, j'ai fait partie des gens qui ont découvert Pierre Botero dans les années 2005-2007. Ça a été vraiment un des grands auteurs de mon adolescence, un des auteurs de fantasy française en plus. Alors déjà pour l'apprenti autrice que je commençais à être, de voir des auteurs français, c'était super. Et comme j'ai vraiment plongé dans ces univers, donc c'est le plaisir de découvrir les trilogies les unes après les autres, de voir les liens entre les trilogies au fil des volumes, de chercher les liens, de dire « Ah bah oui, mais ça, il y a cette allusion-là, ah bah c'est ces personnages-là ». Le drame de la fin des âmes croisées pour celles qui les ont lues et que voilà ce dernier chapitre absolument terrible et dont on n'aura jamais la suite. Et voilà, et du coup, comme j'habitais en région parisienne, il y a le Salon du Livre de Montreuil et le Salon du Livre de Paris qui sont deux grands rendez-vous et où Pierre Botero dédicaçait souvent. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'aller en dédicace, d'aller le voir en dédicace. Et ça a été aussi un grand moment parce que c'était un peu aussi mon entrée dans le monde du livre en découvrant ces auteurs que j'aimais lire. Sous Pierre Botero, il y avait des queues. J'ai dû faire la queue 2-3 heures. C'était à chaque fois pour aller là. Et c'était ça, c'était vraiment un grand moment de, bah, d'être tous entre jeunes et adolescents, de faire la queue avec tous nos romans de Pierre Bottero à la main pour rencontrer cet auteur. Et bah, du coup, alors, je suis hyper timide, donc je lui ai jamais vraiment beaucoup parlé parce que j'osais pas, autrement devant lui, de me dire waouh, et voilà, donc juste, bah, déjà de le voir et de lui tendre les livres, c'était déjà assez impressionnant. Et puis surtout en dédicace, il était. On le décrit souvent comme très bienveillant, et c'est ça, il avait un côté vraiment très lumineux, très solaire, très bienveillant, parce que même au bout de 3 heures de dédicace, il nous accueillait, mais comme si on était la première personne qui arrivait, et c'était assez incroyable. Puis une des premières années, j'étais aussi avec, j'étais assez jeune, donc c'est mon père qui nous avait accompagnés avec mes frères pour aller le voir. Et même il avait un mot gentil pour les parents, en disant je suis désolée, vous avez attendu avec vos enfants et tout, mais enfin c'était vraiment, il y avait vraiment un côté très accueillant, très ouvert, très bienveillant, mais qui plus de 15 ans après, étant que je ressens encore, qui m'a vraiment touchée à l'époque et que je ressens encore aujourd'hui.
Merci d'avoir partagé ça, Laetitia. Du coup, il me semble que c'était plus... Voilà, toi, ton point de vue de lectrice.
Oui, moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer ce grand homme. J'ai démarré, moi, avec Harry Potter, voilà, à 11 ans. Et c'est vrai que j'avais une amie de l'époque qui me tannait avec beaucoup de vigueur et qui me disait « Ah, il faut que tu lises Pierre Bottero. » Moi, je l'ai rencontré à la foire du livre de Briville, exceptionnel. Vas-y, lis-le. J'ai mis des années à m'y mettre et j'ai vraiment, vraiment pas eu du flair sur ce coup-là, parce que dès que j'ai plongé dedans, je me suis dit que c'était ça. Parce que lire un auteur francophone et lire un auteur anglophone, c'est pas la même chose. Il y a une forme d'authenticité, en tout cas dans la plume de Pierre Bottero, qui m'a touchée plus que je n'aurais su le dire. Et j'ai dévoré tout ce que je pouvais dévorer à l'époque. Et quand j'avais terminé, je recommençais. Les âmes croisées, ça a été, je pense, le plus dur. Autant, je suis pas fan de qui que ce soit. La mort des célébrités ne me touche pas particulièrement. Enfin, je ne les connais pas personnellement. Mais Pierre Bottero, pour moi, ça a été. Je pense que c'est la première fois que j'ai pleuré à la mort d'un auteur. Enfin, d'une célébrité. Et oulala, mon Dieu. Et oui, et en fait, ça a clairement influencé la lectrice et l'autrice que je suis. Et je m'arrête là.
Merci. C'est communicatif.
Je suis vraiment désolée.
Mais en plus, on l'a dit quand on s'est vu juste avant que vous arriviez, qu'on risque de se mettre à pleurer par émotion, puisque c'est effectivement un auteur qui a ému, touché beaucoup, vraiment tout son lectorat. Justement, ça va me permettre de rebondir sur ma question suivante. Le petit parenthèse personnelle, moi, ça a été un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en tant que lectrice adolescente, la remarque bête que je me rappelle très bien m'être faite à l'époque, c'est « Ah, mais je savais pas que des Français pouvaient écrire ça, en fait, parce que je n'avais lu que de l'anglo-saxon. » Et vraiment, j'ignorais complètement qu'il y avait ça. Et du coup, côté éditorial, qu'est-ce que ça change ? Je me dis, vous avez commencé avec un auteur qui avait un peu qui avait publié chez Flammarion, ça s'était bien vendu, mais c'était plutôt sur une échelle confidentielle. Et puis là, je crois que la première édition, vous sortez 5000 exemplaires, ils se vendent en quelques semaines, et d'un coup, il y a quelque chose, il y a une machine qui se met en branle avec non plus une trilogie, 3 trilogies, un univers monde, d'autres tomes. Je me dis, comment vous l'avez vécu dans la maison d'édition, cette énorme aventure qui a grandi, j'ai l'impression, assez rapidement.
Alors, je serais tenté de dire qu'en fait, la maison a pu aussi grandir grâce au succès de Pierre Bottero, parce que... comme vous le savez ou comme vous l'avez peut-être entendu dire, l'édition n'est pas une science exacte. On publie beaucoup de textes, des textes auxquels on croit, mais à l'arrivée, il y en a très très peu qui tout simplement rencontrent un public sans du tout parler de succès. Donc moi, à titre personnel, oui, ça a été la chance, parce que j'étais encore, j'avais pas forcément beaucoup de recul sur ce milieu de l'édition, de connaître un succès. Je pense qu'on peut tout à fait être éditeur toute sa vie sans n'avoir jamais rencontré un auteur qui va avoir autant de déco et qui 15 ans après, suscite autant de tant d'émotions. Donc ça, c'est c'était une chance. Et pour la maison d'édition, très concrètement, nous, avant de nous engager dans cette trilogie, on a attendu de lire le tome 2, mais en fait, il était déjà partiellement écrit, donc on n'a pas eu besoin d'attendre longtemps. Et ensuite, le tome 3 coulait de source. Et puis, peut-être pour livrer quelques anecdotes, moi, j'ai un souvenir d'un représentant que j'avais croisé dans la rue et qui me demandait un peu en off, mais alors, cette trilogie, le tome 2, il est écrit, il va vraiment sortir, hein, parce que nous, on défend le tome 1, je défends le tome 1 en librairie, c'est pas pour que dans 6 mois, le libraire me dise, alors, et la suite, ah bon, il n'y a pas de suite, mais moi, j'ai vendu le tome 1 à tout le monde en disant que c'était un tome 1. Voilà, donc il y avait, en tout cas, j'avais été très à l'aise pour le rassurer, parce que le tome 2, je venais de le lire, et donc il était aussi bien que le premier, il n'y avait aucun doute. On n'avait pas lu le 3, il n'était pas écrit, mais on n'avait aucune inquiétude sur le fait qu'un auteur qui était capable aussi vite d'écrire 2 tomes serait capable de... Alors, on pensait de finir sa trilogie, puis on a vite compris qu'en fait, c'était pas tout à fait fini. Et là, l'autre anecdote, c'est qu'en fait, il a commencé à écrire Xavier Descousu, notre responsable marketing, qui racontait cette anecdote. C'est qu'en fait, entre la fin d'une réunion et l'heure d'un déjeuner, sur un coin de son bureau, il avait surpris Pierre en train d'écrire. Il lui dit, mais c'est quoi? Il dit, c'est le tome 4, quoi. Et il avait dit, non, on a fait une trilogie. Tu sais, oui, non, mais non, on verra. Je dis ça comme ça, je dis 4. En fait, c'était pas 4, c'était 1 d'une nouvelle trilogie. Mais voilà, on savait pas. Mais en tout cas, il n'a pas été difficile. Enfin, on n'a pas été dans la position de demander à l'auteur d'écrire la suite. Parce que quand il y a du succès, il faut écrire la suite. Non, ça a coulé de source. Et donc, en fait, quand on a redit les dates, là, oui, 2003... 2009, c'est 6 ans, alors peut-être cette année si on décompte année par année, mais et par rapport au nombre de titres qui ont été listés tout à l'heure, c'était aussi une productivité, une disponibilité de l'auteur extrêmement importante. Alors, il était donc enseignant, Pierre Bottero, en école primaire, et donc il y a un moment où, devant son succès et l'aimable pression de l'éditeur, voilà, il a pu se mettre en disponibilité de l'éducation nationale et se consacrer davantage à l'écriture et au salon et aux rencontres. Donc c'était très bien qu'Hermine dise des choses, que j'aurais pu dire la même chose, mais ça aurait eu beaucoup moins de poids. Et voilà, l'une des anecdotes aussi qui, dans l'histoire de Rajo, c'est qu'on n'avait jamais eu besoin de barrières à Montreuil avant Pierre Bottero. Voilà. Ça, c'est aussi une manière de quantifier et de visualiser les choses. Quoi. Voilà. Et on est devenu un éditeur qui a besoin de barrières. Normalement, ça n'arrivait pas. Quoi.
Et du coup, tu évoques sa vitesse d'écriture, sa capacité de production. En plus, il s'est mis tard, entre guillemets, à écrire. C'est dans, justement, sur les traces des Whelan. Je l'avais déjà lu sur le site de Rajo à l'époque, mais c'était amusant de le relire, que c'était pour compléter un exercice d'écriture, aider sa fille, Camille d'ailleurs, qui s'appelle comme l'héroïne, à se lancer dans un exercice d'écriture. Bon, il teste et puis tout le monde dit « Non, mais en fait, continue, ça a l'air pas mal. » Et comme quoi, c'est chouette. Et c'est vrai que donc il avait cette force d'écriture, une vitesse d'écriture, et pourtant, il était aussi disponible pour ses femmes. Il pouvait donner des conseils d'écriture. Il était, il était très productif. Et il me semble que c'est toi, Hermine, qui a pu... que tu as des souvenirs de ses conseils d'écriture, de ce qu'il a pu essayer de partager avec sa communauté.
C'est ça, parce qu'à l'époque, il y avait un site, c'était les Mondes Imaginaires de Rajo, je crois, qui était justement consacré à la série. Et il avait publié ses conseils d'écriture dessus, à destination des jeunes auteurs, parce que je ne lui ai jamais parlé de mes textes ni rien. Mais du coup, il avait des... Je crois qu'ils sont sortis dans les bonus des romans, maman, enfin, je ne sais plus, mais c'était ses conseils d'écriture où il parlait de l'envie pour écrire. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, parce qu'après, les restes des conseils, quand on est auteur, c'est des conseils qu'on connaît, en fait, mais moi, en tant qu'autrice adolescente à l'époque, je découvrais un peu tout ça. Et il parlait vraiment de l'envie irrépressible, terrible d'écrire. Je pense que c'était ce qu'il devait ressentir lui aussi en écrivant, parce que oui, c'est vrai, quand on réalise après coup les quatre trilogies, les trois des Whelan, l'autre et les âmes croisées en 6 ans, c'est quand même impressionnant. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué à l'époque parce que je suis une autrice aussi qui écrit de l'inspiration vraiment d'un élan et de sans plan. Enfin, je structure pas, je ne sais pas écrire avec des plans et ce genre de choses. Et je ne sais pas si lui en utilisait, mais il y avait vraiment ce côté d'élan créatif, d'élan d'inspiration. Alors, j'aime pas vraiment l'inspiration parce que c'est pas, il y a quand même, c'est du travail, l'écriture, mais vraiment tout cet élan, cette envie irrépressible, ce besoin intérieur viscéral de d'écrire. Et qui m'a beaucoup parlé à l'époque. Et voilà, donc oui, c'était. Puis aussi en tant qu'autrice, c'était aussi ce qu'on trouvait dans son dans ses romans, son écriture, ses phrases assez courtes, les retours à la ligne qui sont assez caractéristiques, la poésie. Alors j'ai pas du tout une écriture comme ça, mais c'était vraiment quelque chose qui était très motivant et stimulant aussi en tant que jeune autrice. Et certains de mes premiers textes à l'époque, car c'est des textes qui sont au fond de mes tiroirs, qui n'en sortiront sans doute pas. Mais voilà, il y avait aussi il y a quand même des personnages qui étaient un peu inspirés, il y en avait un qui était un peu qui reprenait certains aspects de Nathan dans l'autre, ce genre de choses, c'était des personnages qui me parlaient, que j'avais envie de qui permettaient moi aussi de développer en fait mes propres personnages et qui aussi me parlaient parce que j'avais alors je dévie complètement de la question. Je suis désolée, mais c'était en fait, il y avait aussi pas mal de personnages qui étaient en marge du monde. En fait, je pense Camille, de toute façon, au début, qui est dans un monde entre sa famille, le collège, un monde qui ne la comprend pas et qui et donc elle se sent à part. Chahé, dans l'autre aussi, qui est complètement à part. Et c'est vrai que ça me parlait à la fois en tant que lectrice et puis c'était aussi des personnages que j'avais envie de mettre en scène dans mes propres textes. Donc, ça a été vraiment quelque chose de très nourrissant et très enrichissant pour moi à l'époque.
Mais du coup, c'est vrai que quand on voit, c'est des textes qui sont très qualitatifs. Tu évoques le fait qu'il y a de la poésie, il y a une rythmique. Dont chaque fois que j'ai pu échanger avec d'autres lecteurs, lectrices de Botero, ça a toujours été ce retour de, c'est un ouvrage, ce sont des œuvres de qualité et elles sont pour les enfants ou les ados. Mais c'est pas avant tout une œuvre pour les ados. Pour avoir été lectrice à cet âge-là, je me rappelle que ça faisait du bien d'avoir quelque chose où on voyait qu'on n'essayait pas de nous prendre pour des cons, tout simplement. Désolée, j'ai pas trouvé d'autre manière de le dire. Mais du coup, je me demande, est-ce que toi, Florie, ça t'a permis de stimuler ton analyse alors, je n'ai pas fait de thèse en littérature, donc je projette sur ce qu'est une thèse en littérature. Je suppose que voilà, tu dois avoir de l'analyse qui repose à la fois sur le style, sur la structure, sur peut-être aussi les réceptions d'œuvres. Les personnes que j'ai autour de moi, souvent, c'est très polymorphe le format que peut prendre la thèse. Toi, la qualité d'écriture de Pierre Botero, est-ce que ça t'a facilité le travail, ça l'a complexifié? Quel a été ton rapport avec ça?
Alors, je ne le considère pas en termes de est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est moins facile, c'est un sujet que j'ai traité. Après, mon sujet principal était quand même les personnages féminins. Donc, j'en ai parlé un petit peu de la langue de Pierre Botero, bien sûr, parce que c'est difficile aussi de faire l'impasse dessus, tellement elle est vraiment très significative, elle est vraiment très étonnante, elle se différencie beaucoup de ce qu'on avait pu voir jusqu'alors. Mais c'est vrai que c'était pas le sujet de mes recherches. Après, je me suis un petit peu penchée sur la question. J'ai fait un article, d'ailleurs, sur les traces des Whelan, sur cette question-là de la langue et du style de Botero. Donc, vous en avez très, très bien parlé juste avant. C'est des phrases verbales, souvent des retours à la ligne. Ça donne de fait un style qui est très dynamique, hein, ça coule de source tout de suite. On commence à le percevoir dans la quête des Whelan, mais il devient aussi de plus en plus marqué en fait au fil des tomes, jusqu'au Pacte des Marchombres, en fait, où c'est la trilogie. On ressent le plus ce style-là, hein. Il devient le plus affirmé aussi, je crois, au fil des tomes, et notamment avec la poésie marchande, bien entendu, où là, on a vraiment un concentré, j'ai l'impression, de tous les trucs et astuces de Botero, enfin de son style. Là, on peut pas le louper, quoi. Et c'est aussi quelque chose, il me semble, de pratique pour les enfants et les adolescents, parce que c'est pas toujours facile d'apprendre qu'est-ce que c'est le style d'un auteur, qu'est-ce que c'est qu'un style littéraire. Quand on est au collège ou au lycée, on peut avoir un petit peu de mal à l'appréhender. Et avec Botero, ben, on peut pas passer à côté. Donc je pense qu'il y a un côté aussi didactique et qu'on devrait davantage s'en servir au collège et au lycée. Après, la quête des Willan est recommandée par l'éducation nationale. Après, dans les faits, je ne sais pas ce qu'il en est, hein, si c'est vraiment utilisé ou non, mais le pacte des marchombres aussi gagnerait à être étudié dans ce cadre-là. Moi, je milite beaucoup pour qu'on essaie de faire rentrer justement l'imaginaire dans les programmes scolaires et que ça soit utilisé en classe. Ça commence à l'être un petit peu plus avec la science-fiction, un petit peu moins avec la fantasy. Le fantastique aussi marche bien au collège. Voilà, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais en tout cas, le style de Botero pourrait être étudié et pourrait l'être dès la préadolescence, à mon sens.
Tout à fait. Et du coup, côté style, toi, Laetitia, est-ce que, justement, on dit que ce style est très caractérisé, est-ce qu'il t'a influencé dans ton... Alors, il t'a impacté en tant que lectrice, et est-ce que tu y vois un petit peu d'influence dans ce que tu écris aujourd'hui ?
C'est vrai que comme j'ai grandi avec Pierre Botero, j'ai grandi en même temps que la plume, j'ai l'impression, vu que du coup tu parlais d'affirmation, le fait que la plume soit de plus en plus marquée faisait que moi-même je grandissais en même temps et mes attentes également devenaient plus élevées. Et c'était toujours vraiment très très fluide dans ce sens-là. Et ce que j'ai, la chose aussi que j'ai remarqué en vieillissant, c'est qu'en le relisant, il y a plusieurs niveaux de lecture. Quand je revenais en arrière sur, par exemple, j'avais terminé le pacte des marchands, je revenais sur la quête des Willan, je découvrais des choses à côté desquelles j'étais complètement passée. Parce que j'étais plus jeune à l'époque, et vraiment ce double, voire triple niveau de lecture, il est assez impressionnant parce que c'est de la jeunesse, oui, mais ça peut être complètement lu par des adultes. C'est totalement digeste. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et très récemment, il y a quelques années, j'ai lu A comme association, qui avait été coécrit avec Eric Lhomme. Je m'attendais à un petit livre jeunesse de rien du tout. Je suis ressortie de la saga, enfin, même si ça s'est arrêté abruptement pour Pierre Botero à cette époque-là. À partir du tome 3, si je raconte pas de bêtises, c'était bien. Tome 4 ? Ok, tome 4. Je suis restée vraiment baba, quoi. Enfin, par rapport à la qualité du texte, on retrouve encore ce sel qui fait tant Botero. Même adulte, ça me fait toujours le même effet. Et c'est une plume qui vieillit bien. Parce qu'on peut lire un livre qui a 10 ans d'ancienneté, 20 ans d'ancienneté, et on se dit, ouf, aujourd'hui, ça sortirait pas tel quel. Mais Pierre Botero, tel quel. On n'y touche pas, il n'y a pas besoin. Vraiment, il transcende les années, je pense qu'il touchera également les prochaines générations, celles qu'ils ne lisent pas encore, à mon avis, oui, sans problème.
Je pense que c'est le livre jeunesse que j'ai le plus offert, d'ailleurs, depuis 20 ans. Et du coup, on est sur le style et tout ça. Guilin, est-ce que je pourrais te demander de lire l'extrait que tu as choisi, comme ça on va pouvoir se réimprégner maintenant qu'on en a parlé.
Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas lu La quête des Willan ?
Ah, quand même. Alors, est-ce que ça vous gêne ? Du coup, effectivement, c'est spoilant.
C'est pour savoir si je devais donner beaucoup d'éléments de contexte ou pas.
Ah, d'accord.
Donc, je vais simplement dire pour ceux qui n'ont pas déjà lu qu'on est dans la première partie du roman, que, comme chez Tolkien, la compagnie s'est constituée. Donc, elle est formée de Camille et de Salim, un couple de jeunes adolescents, et d'une bande de guerriers, plus ou moins. Haut en couleur et d'un vieux monsieur qui est une sorte de vieux sage, on va dire, d'analyste. Voilà, j'en dis pas plus. Et donc la scène se passe dans une taverne où l'ambiance était assez pesante parce qu'il y avait une bande d'hommes en armes assez inquiétants et ils viennent de s'en aller, ce qui réjouit le tavernier. Voilà. Il se pencha vers eux et murmura. C'est comme ces hommes qui étaient là à votre arrivée. Ils ne sont pas du pays. Ils traînent dans le coin depuis quelques jours. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'ils attaquent les voyageurs. Faites attention en repartant. Nous vous remercions pour votre mise en garde, déclara Edwin. Mais nous sommes en mesure de nous défendre. De toute façon, nous avons l'intention de passer la nuit ici, du moins si vous pouvez nous loger. » Un sourire satisfait illumina le visage de l'aubergiste. « Pas de problème, cher monsieur. Combien de chambres désirez-vous ? 3 ferait l'affaire. Vous avez vos 3 chambres, je les prépare immédiatement. » Il s'éloigna d'un pas guilleret en se frottant les mains. Duhom Nilergue soupira. « Je sens que ma bourse va s'alléger. » À ce moment, un cri s'éleva dans la rue, qui s'acheva dans un gargouillis. Edwin porta la main à son sabre. Il fit un signe aux 2 soldats qui saisirent leurs lances et se dirigèrent vers la porte. Elle s'ouvrit avant qu'ils ne l'atteignent. Une femme entra, la main sur la poignée d'un long coutelas passé à sa ceinture. Elle examina l'auberge et les rares convives avant de s'installer à une table. Les 2 soldats interrogèrent Edwin du regard, et celui-ci hocha la tête. Ils sortirent. Camille détailla la nouvelle venue. C'était une jeune femme d'une 20aine d'années. Elle avait la peau mate, de longs cheveux noirs brillants tirés en arrière et tressés. Ses vêtements de cuir sombre, semblables à ceux d'Edwin, mettaient en valeur sa silhouette élancée. Hans et Maniel revinrent dans la salle. Hans chuchota quelques mots à l'oreille d'Edwin, qui se détendit. L'aubergiste n'avait pas tort, les hommes qui étaient au comptoir sont certainement des bandits. L'un d'eux a dû penser que cette demoiselle serait une proie facile. « Et alors ?» demanda Bjorn, prêt à se lever. Il s'est trompé. La jeune femme avait commencé le repas que l'aubergiste venait de lui apporter. S'apercevant qu'elle était le point de mire de leur regard, elle leva la tête et les dévisagea tour à tour. La présence des 2 adolescents sembla la rassurer et un léger sourire flotta sur ses lèvres.
Merci. Et du coup, j'y pense en entendant là, cette description. Dans ton analyse des personnages féminins, Florie, attends, je cherche comment tourner ma... Elle est claire dans ma tête, je sens que ça ne va pas être clair quand je vais le dire. Pierre Bottero décrit très... avec très peu de mots... comment dire, je perds mes mots, présente avec très peu de mots ces personnages pour nous poser le décor. Voilà, poser le décor, c'est ça que je cherchais. Toi qui as fait un panorama des personnages féminins, est-ce que tu as vu que s'il y a une grosse différence, comment ils traitent ces personnages qui sont plus adultes, ceux qui sont plus jeunes? Est-ce que toi tu as pu voir, parce que c'est un truc qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est le peu de sexualisation qu'il peut y avoir de ces personnages féminins. Alors même qu'on est, il y en a. Je dis peu, je le dis aussi au regard de ce que je pouvais lire et de ce que je peux encore lire ailleurs. Ouais. Mais qu'il y a quand même une distinction entre les personnages plus jeunes et plus âgés.
Ouais, tout dépend des personnages. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que j'adore Pierre Bottero. Hein, y a aucun problème avec ça. Je ne le mets pas sur un piédestal non plus. Et c'est vrai que certains personnages, comme Elana notamment, vont être, alors peut-être, j'irai pas jusqu'à dire hypersexualisés, mais en tout cas, oui, il y a un aspect presque un petit peu érotique. Ils sont empreints de désir à travers la vision, souvent, d'autres personnages masculins qui vont les fantasmer. Et Pierre Bottero le dit lui-même hein, dans une interview en parlant d'Elana. Il dit que pour lui, c'était un fantasme. Après, l'hypersexualisation, elle vient parfois, pas toujours, mais elle vient parfois des couvertures ou des adaptations, notamment en BD et autres, qui ont découlé de la trilogie et des textes originaux. Après, c'est pas le cas de tous les personnages, c'est pas franchement le cas des Willan, par exemple. On est aussi dans une trilogie qui s'adresse à un public qui est plus jeune que celui d'Elana. Mais au niveau du traitement, la potentielle hypersexualisation, l'érotisation et les normes de beauté physique assez traditionnelles hein, qui reviennent, bon, c'est pas non plus tout noir ou tout blanc. Et on a quand même aussi beaucoup de personnages féminins qui, au niveau de leur représentation physique, sont un peu tous dans le même moule, enfin qui répondent en tout cas aux normes de beauté traditionnelles qu'on a l'habitude de voir, des personnages qui vont être minces pour l'essentiel d'entre eux. Alors bon, vous pouvez me dire, parfois ça s'explique pour Elana, bon, elle court partout, certes, c'est pas le cas de tous les personnages, et pourtant, on a aussi beaucoup de personnages avec des cheveux longs, des visages fins, enfin, on a quand même une norme de beauté assez uniforme hein, qui se développe dans l'univers.
Et toutes les deux, est-ce que vous, ça vous a impacté la variété, la diversité des personnages féminins dans chez Pierre Bottero et voilà leur présentation que Pierre Bottero a pu en faire, Laetitia.
En ce qui me concerne, c'est surtout Elana qui a eu un fort impact. Je pense que je ne suis pas la seule autrice qui était autant impactée par Elana. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que tous mes romans mettent en place une héroïne. C'est toujours une héroïne qui évolue. Ma première saga, d'ailleurs, a été fortement inspirée du Pacte des Marchombres, puisque mon héroïne aussi commence son initiation jeune. Et il y a aussi tout de même un point concernant la femme qui moi m'a beaucoup influencée, c'est la question de la sororité, parce que dans la littérature de fantasy, que ce soit jeunesse ou young adulte, à cette époque-là, du moins, il y avait pas mal de rivalités, il y avait pas mal de coups bas, que la gente féminine s'envoyait, et Pierre Bottero, pour moi, était l'un des premiers que je lisais qui partait à contresens. Et moi, ça a changé ma vision, justement, de l'écriture. Ça a changé mes biais. Ça m'a permis de me déconstruire d'une certaine façon. Et donc, oui, je pense que du coup, les figures féminines ont tout. Alors, et Willan, je vous avoue que je pense que, comme beaucoup, elle m'a profondément agacée. J'ai eu plus d'une fois envie de refermer le livre parce que non, enfin, elle était toujours très parfaite, trop parfaite. Et c'était parfait comme ça, hein. C'était très très bien parce qu'il en fallait, mais c'est Elana pour moi. Et Siam, évidemment. Et je pense que Siam et Elana, déjà le duo en lui-même est assez fort, vraiment le concept de l'héroïne badass, des héroïnes badass, des femmes qui prennent le pouvoir et qui ne se laissent rien dicter. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir en fantasy, qui était souvent écrite par des hommes avec des héros. Parce que c'était de jeunes héros qui étaient mis en valeur et les jeunes filles étaient simplement des faire-valoir ou des princesses à sauver. Et là, pour une fois, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'autres marchent sur ses pas et c'est très bien comme ça.
Hermine?
Florie, si je peux me permettre. Après, il faut en sortir de ça aussi. Hein. C'est-à-dire que les héroïnes badass, etc., il y a une époque, c'est vrai, on n'en avait quasiment pas. Là, Bottero, ça a 20 ans aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un grand pas en avant qui est franchi. On a une héroïne qui est au premier plan. Et ça, c'est important de le noter. Et avec Elana, et puis d'autres, hein, Siam, etc., elles vont défier l'autorité, elles sont badass. Mais maintenant, c'est vrai que moi, j'en ai jusque-là des femmes badass, parce que je lis beaucoup, bien sûr, de fantasy jeunesse et de fantasy ado, qui vont toujours être représentés de la même façon, qui prennent les armes, qui ne laissent rien passer et qui sont super sexy dans leurs armures très moulantes. Bon, ça, j'espère qu'on va réussir à en sortir un petit peu. Il y a maintenant de plus en plus de publications aussi d'auteurs, d'autrices qui s'interrogent sur ces biais-là et qui vont montrer d'autres héroïnes, mais c'est quelque chose qui est... Il y a eu une grande, grande mode, en tout cas, de ces héroïnes badass pendant longtemps.
Je me permets de te répondre. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense en fait pour arriver à un juste milieu, il faut partir dans les extrêmes. Voilà, exactement, pour que ça se rééquilibre. Et on est en train de revenir là-dessus. C'est vrai que, comme tu disais, moi j'ai vraiment grandi avec ça, et aujourd'hui, je continue de désapprendre et d'apprendre plein de nouvelles choses. Et c'est vrai que on a besoin de héros et d'héroïnes dans lesquels on peut se retrouver. Et on n'est pas parfait. Et on a besoin de héros qui sont certes, qui arrivent à faire des choses, qui arrivent à nous impressionner, mais qui ont aussi leurs failles et qui tombent souvent, mais qui se relèvent toujours. Et je pense que, comme je disais dans une autre conférence là, hier, je pense que on a la chance, moi personnellement j'ai de la chance d'écrire en jeunesse young adulte, et je sais que des jeunes lecteurs me lisent, parfois ils ont 10, parfois ils ont 11 ans, et eux n'ont pas fini de se construire. Ils ont encore plein de choses à apprendre. Et les livres qu'on écrit aujourd'hui, qui sont fortement inspirés de Bottero, eh bien, ils sont là aussi pour les éduquer. Je dis ça très grossièrement, mais ils sont là également pour leur donner un nouveau prisme dans lequel regarder. Et en fait, je pense que c'est vraiment important de se poser des questions quand on lit un livre. C'est très important de pouvoir débunker certaines choses et de pouvoir, une fois qu'on a terminé la dernière page d'un livre, de se poser la question, est-ce que j'ai lu ? Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que c'était exactement comme ça qu'il fallait le traiter ? Il faut que ça fasse réagir. en bien ou en mal. Et en ça, Botero aussi est très très fort, je pense.
Erwin ?
Je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit sur à la fois bah, l'importance des personnages badass à l'époque de Botero, mais aussi maintenant l'importance de présenter d'autres types de personnages, d'autres modèles de personnages qui sont moins parfaits ou qui sont qui sortent des normes de ce qu'on a l'habitude de voir en tant qu'héros ou héroïne. Et alors moi du coup j'étais moins sensible à l'époque. Alors j'ai adoré Elana, mais parce que c'est en tant que personnage marchand avec toute sa liberté, toute la poésie qu'elle portait avec, parce que bah, dès le début c'est il y a une phrase qui m'est beaucoup restée, c'est il y a deux réponses à cette question, comme à toutes les questions. Laquelle veux-tu en... celle du poète et celle du savant, laquelle veux-tu en premier ? C'est deux façons de voir la vie, deux façons d'envisager les choses, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et alors, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça va me revenir. Oui, non, du coup, j'ai reparcouru un peu les livres avant de, pour cette table ronde, cet hommage à Pierre Botero. Et ce qui m'a marqué, surtout, moi, c'est Nawel, des âmes croisées, qui est une héroïne qui change, je trouve, par rapport aux autres, qui est une anti-héroïne, hein, au début, parce qu'elle est quand même insupportable et elle commet des actes qui sont quand même voilà, qui sont pas du tout descendables, et mais qui a une belle évolution tout au long du roman. Et ce qui est important pour moi aussi dedans, c'est que, alors je sais pas quelles étaient les intentions de Pierre Botero à l'époque, mais il y a pas du tout de romance dans ce texte. Elle rejette même d'ailleurs l'idée de romance, elle veut se construire elle-même, être libre et sans avoir besoin de quelqu'un dans sa vie. Et alors c'est bah quelque chose qui me parle parce que j'ai écrit des romans avec très peu de romances justement ou d'autres formes de relations. Et elle dans bah justement elle se retrouve dans une ce qui s'appelle une case qui s'appelle les armures, où c'est fondé plus sur la camaraderie, l'entraide, c'est une sorte de famille de cœur, une sorte de famille trouvée. Et avec beaucoup de liens d'amitié très forts. Et du coup, je trouve que c'était aussi très intéressant, mais même à l'époque déjà, de mettre ça en scène, parce que ça me... Enfin, à l'époque, je ne l'ai pas senti, mais maintenant, en relisant 15 ans après, c'est peut-être novateur pour l'époque. Enfin, je ne sais pas, Florie, si tu... Voilà, ce qu'on est analysé, mais voilà, pour moi, enfin, en relisant maintenant, avec le regard de maintenant, je me dis, ouais, c'était quand même très novateur comme façon de mettre en scène des personnages, à la fois une héroïne complètement anti-héroïne, une belle évolution, puis le rejet de la romance et de ce genre de relation.
Tu veux réagir,
Florie ? Oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est un peu en ces termes aussi que j'en parle, hein, dans ma thèse. Pas tellement sur les traces des Whelan, parce qu'on parle pas des âmes croisées, on n'est pas allé jusque-là. Mais dans ma thèse, c'est ce que j'ai soulevé aussi, hein, au niveau de la caste des armures. C'est une société qui est vraiment marginale, qui est très égalitaire, où on n'a pas de différence fondamentale entre les hommes et les femmes, comme on peut parfois le voir ailleurs dans d'autres sociétés de Gwendolavir et puis... autre. Mais oui, chez les armures, il y a une forme d'égalité. C'est aussi très intéressant qu'on ait un personnage, comme tu l'as dit, qui rejette toute forme de romance, qui ne finisse pas mère, parce que c'est vrai que chez Botero, il y a beaucoup de personnages féminins qui embrassent un destin maternel. Avec Nawel, c'est pas le cas. Bon, après, c'est un petit peu difficile de savoir ce qui se serait passé puisque Les âmes croisées a été inachevé finalement. Mais oui, on a vraiment avec Nawel, c'est le personnage, je pense, chez Botero qui va le plus déjouer les normes genrées.
C'est absolument passionnant de vous entendre échanger et j'ai beaucoup de regrets qu'on ait qu'une heure. Mais du coup, si on veut laisser un peu la parole au public, je vais devoir vous couper. Et du coup, on pourrait finir sur toi, ton extrait que tu n'as pas encore eu le temps de lire, Florie. Je te laisse nous
alors,
lire.
Alors, c'est un extrait du premier tome du Pacte des Marchombres. Alors, tout ce que vous avez à savoir pour le comprendre, c'est que, enfin, si vous ne connaissez pas le Pacte des Marchombres, c'est que le personnage d'Elana, dont il a été question quand même pas mal de fois, est appelé Ipiu, donc au début de la trilogie. Donc, il est question d'Ipiu. Et de deux personnages qui sont en quelque sorte ses pères adoptifs, deux petits, qui s'appellent Hook et Pil. Et ce passage, il a lieu pendant une sorte de grande randonnée qui va durer plusieurs jours, dans laquelle se lance Ipiu avec Hook et Pil. Ipiu n'avait que 10 ans, mais son corps avait déjà perdu les rondeurs de la petite enfance. Fine et musclée, elle marchait avec vaillance, mettant un point d'honneur à ne jamais se plaindre et, surtout, à ne pas se laisser distancer. Ignorant qu'à 10 ans, les enfants, qu'ils soient petits ou humains, se lançaient rarement dans de tels périples, Hook et Pil ne s'étonnaient pas de sa singulière résistance et, à aucun moment, n'envisagèrent de ralentir. Pour la même raison, Il n'avait jamais hésité à la laisser se balancer de branche en branche à 20 mètres de hauteur, ou à l'envoyer seul apporter une information à un voisin habitant à 10 kilomètres. Cette éducation avait porté d'étranges fruits. Ipiu n'avait qu'une idée très relative du danger, et le concept de prudence lui était parfaitement étranger. Elle s'était ainsi approchée à plusieurs reprises de la mare d'un trode pour le cribler de pierres, s'était foulée une cheville en s'essayant au saut périlleux depuis la cime d'un érable, avait failli éborgner Hook en s'entraînant au lancer de fourchette, et avait manqué être à l'origine de la première guerre civile de toute l'histoire des petits en découvrant l'usage de la sarbacane et en testant la précision de son tir contre un village voisin. Elle avait même tenté d'apprivoiser un ours élastique en lui offrant des framboises, ne réussissant que de justesse à échapper aux plantigrades affamés. C'était la seule fois où Pile et Hook s'étaient fâchés. On ne plaisantait pas avec les framboises. Le reste du temps, ils accueillaient ces bêtises avec philosophie, persuadés que ce comportement était lié à ses origines humaines. Les petits qui vivaient en famille à proximité avaient tenté de leur expliquer que, humaine ou pas, Ipiu était une enfant et avait davantage besoin de sécurité affective que d'aventure. Il s'était heurté à un mur d'incompréhension totale. Ipiu avait continué à risquer sa vie 10 fois par jour et à beaucoup s'amuser.
Merci beaucoup. Et du coup, on va prendre le temps de 2, peut-être 3 questions. Ça dépend des questions. Y a-t-il des mains levées ?
Voilà, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour vos discours, vos avis, vos lectures. C'était très intéressant. J'ai pas encore lu la thèse de Flori, mais c'est prévu. Je sais que c'est long, je fais une thèse aussi. Ma question va porter sur le tome 4, enfin le premier tome de la deuxième trilogie des Whelan, parce que c'est, comme vous l'avez dit, voilà, Pierre Bottero, c'est un auteur qu'on peut lire à tout âge, mais qui a priori a d'abord trouvé son public chez les jeunes, chez les enfants. Moi, j'ai commencé à lire ses livres à 8 ans, je crois. Et le tome 4, c'est un peu une claque en termes de thématique, et je voudrais avoir vos opinions là-dessus.
Alors c'est vrai qu'il y a un gros changement d'ambiance entre la première et la deuxième trilogie, qui est beaucoup plus sombre, qui a des thèmes qui est plus adulte presque. Alors moi, c'est comme je les ai lus un peu plus âgés, j'avais quand même 14-15 ans à l'époque, ça m'a moins marqué. Et c'est vrai que, alors par contre, j'écris des romans qui sont assez sombres, qui ont des thèmes assez durs. Et c'est vrai que du coup, déjà adolescente, de découvrir finalement que pour la jeunesse, on pouvait aussi écrire des choses dures, mais sans tomber dans l'outrance, parce que je trouve qu'il a un style très délicat, mais enfin il dit beaucoup de choses sans détailler en fait. Et on retrouve un peu ça dans le premier tome des mondes des Whelan. Et du coup, c'est vrai que moi c'est aussi quelque chose qui m'a pas, enfin c'est un peu comme Harry Potter, c'est des romans avec lesquels on grandit en fait, parce que il me semble qu'il y a un peu de temps qui s'est passé entre les deux trilogies, elle est un peu plus âgée et Whelan, il me semble. Et du coup, en découvrant de façon un peu plus grande, un peu plus adolescente, c'était aussi quelque chose qui du coup m'avait bien parlé, oui, ce changement de ton, ce changement d'ambiance et de côté un peu plus adulte.
Alors moi, j'étais aussi un petit peu plus vieille, puisque j'avais 14-15 ans quand j'ai lu c'était La forêt des captifs. Et c'est vrai que ça marque une vraie rupture dans la saga. Mais moi, j'ai adoré. Parce que j'ai eu cette sensation qu'on me prenait pas pour une enfant, justement. Et que j'étais assez grande et mature pour entendre des thématiques dures et éprouvantes. Et du coup, ça crée encore plus d'empathie. Moi qui avais tant de mal à m'accrocher à Camille et qui préférais beaucoup plus Salim, j'ai ressenti énormément d'empathie pour une héroïne qui souffre profondément et ça a changé. En fait, ça a changé ma vision de l'héroïne et en même temps, pour moi, c'était une suite logique parce que je grandissais en même temps que cette saga et j'étais contente que ça évolue dans ce sens. Ouais.
Oui, je te rejoins. Je pense que ça désacralise Ewilan parce que on nous dit bien à ce moment-là, donc quand elle sort de, bon, je ne vais pas trop en dire s'il y en a qui ne l'ont pas lu, mais elle sort d'un endroit terrible et on nous dit qu'il y a une flamme noire qui brûle dans ses yeux. Elle rêve de revanche, elle veut vraiment aller délivrer les prisonniers qui restent, mais elle veut se venger aussi. Et on a donc un autre aspect des Whelan. Là, on n'a plus vraiment ce côté petite fille parfaite. Ça commence à se rompre un petit peu. Et c'est aussi intéressant de regarder le personnage d'Elea à ce moment-là, puisque Eléa apparaissait, donc l'antagoniste, plutôt comme une figure un petit peu de magicienne ténébreuse, de sorcière jusqu'à présent. Et là, on a le côté aussi savante folle, presque, qui vient se greffer à ce personnage-là, puisque l'endroit où sont retenus prisonniers les enfants et où a été retenue prisonnière et Willan, c'est une sorte de laboratoire un petit peu scientifique, terrible, il y a des expériences qui se produisent. Et donc, moi, ce qui m'a intéressée à ce moment-là, c'était de voir la fusion de plusieurs figures, à la fois magicienne, sorcière et savante folle qui venait se rajouter.
Donc nous, on le lisait avec un regard d'adulte et on s'est plutôt sur ce tome 1 de la deuxième trilogie dit chouette, parce qu'on voyait que d'un point de vue narratif, le personnage allait prendre de l'épaisseur. Donc c'est, pour nous, c'était un excellent début de nouvelle trilogie pour repartir. Donc on s'est pris la claque aussi, mais c'était vraiment dans le bon sens. Et je peux dire qu'on s'en est aussi pris une avec le premier tome d'Elana, parce qu'on ne s'attendait pas du tout. On nous avait promis, ce sera centré sur Elana, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle ait 5 ans et qu'elle soit dans une forêt avec des hobbits. Là, on s'est dit, mais les lecteurs qui ont adoré les 6 premiers tomes, est-ce qu'ils vont continuer de nous suivre, de te suivre, Pierre, avec... Et il était très, très, très sûr de lui, donc il était plus sûr de lui que nous, je pense.
Merci. Et on va prendre une dernière question, puisque, voilà, merci.
J'avais juste une petite question pour l'éditeur. Où en est la réimpression du Chant du Troll ?
Je crois que le timing est écoulé. La question se pose. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant.
Mais du coup, vu la question, la troisième question peut avoir lieu. Merci.
Merci. Donc, moi, j'ai lu uniquement Les âmes croisées. Et l'année dernière, grâce à ma fille, donc qui a 13 ans. Et est-ce qu'il y a un projet avec les fans de Botero d'écrire la suite ? Est-ce qu'il y a des projets ? Est-ce que c'est un peu confidentiel ? Est-ce qu'on peut en savoir plus ?
Là, à ma connaissance, la question ne se pose pas.
Du tout ?
Non.
Et pourquoi ?
Alors, je pense qu'on a... On ne pense pas que quelqu'un puisse le faire. Alors je sais que ça a pu être le cas pour des livres d'Éric Lhomme, mais avec la validation de l'auteur, et puis pour prolonger quelque chose qui, quelque part, pouvait sembler clos. Là, c'est pas du tout le cas. Et puis, c'est également quelque chose qui ne pourrait pas se concevoir sans... l'accord des ayants droit, je pense même qu'on n'aura pas posé la question, parce que nous, on ne se la pose pas nous-mêmes en tant que maison d'édition.
Okay.
Voilà. Donc,
au niveau de la recherche.
Je pense pouvoir vous dire que non, ouais. C'est vrai. En tout cas, c'est absolument pas une intention. Et si, peut-être que si ça avait dû se faire, ça aurait été fait déjà, et, sans attendre 15 ans. Ouais.
Et au niveau de la recherche, est-ce qu'on a des bribes d'informations sur ces projets, comment elle voulait terminer ? Parce qu'en fait, c'est très cruel pour les lecteurs. C'est voilà, ça nous laisse dans un état. Vous m'avez fait pleurer tout à l'heure là. C'est clair. Et puis, comme ça, c'est déjà fait dans le passé. Est-ce qu'il y a des voilà au niveau de la recherche, est-ce qu'on sait pas plus que ça ?
La recherche, ça consiste pas à deviner ce qu'aurait pu écrire un auteur, donc. Moi, j'ai pas non plus d'informations à vous transmettre à ce niveau-là. Je suis pas allée fouiller les cartons chez Rajo, mais je suis pas sûre qu'il y ait non plus beaucoup de pistes.
La question s'est un peu posée pour le projet de l'association, puisqu'il y avait eu Éric Lhomme et Pierre Botero avaient écrit chacun un tome, en se concertant sur l'évolution globale de la ligne narrative, sur l'univers, etc., etc. Mais ils conduisaient chacun leur intrigue jusqu'à un théorique tome 7 que là, ils auraient vraiment écrit à quatre mains et non pas chacun de leur côté en parallèle. Et en fait, la deuxième histoire qu'il a écrite, voilà, elle était, et c'est indiqué en postface, voilà, que le texte, on dirait nettoyé, nous, en tant qu'éditeur, c'est-à-dire on enlève les coquilles, tout, mais on n'est pas intervenu sur l'intrigue, mais c'était, on le dit explicitement, voilà, c'est présenté dans l'état où le texte était, une version 1 complète, et abouti, mais sans, sans travail éditorial et sans même que l'auteur ait pu avoir un mois ou deux mois de recul sur son premier jet. Donc voilà. Et après, la question s'est posée pour Eric Lum de poursuivre la série. Ouais, donc là, c'était un cas un peu différent. Voilà, pour dire que ce qu'on avait dans les, entre guillemets, dans les cartons ou qui était potentiellement encore publiable, bah, en fait, c'était ce livre-là et il a été publié. Mais on n'avait pas le tome 2 et encore moins le tome 3 des âmes croisées.
Bien, merci à tous et à toutes d'avoir été aussi nombreux et nombreuses pour cette conférence autour de Pierre Bottero et de l'héritage qu'il nous a laissé. Et surtout, merci à tous les quatre d'avoir partagé vos souvenirs, vos analyses, vos impressions, voire des choses un peu plus personnelles. C'était foisonnant, très varié et vraiment enrichissant d'échanger avec vous. Donc je vais reprendre pour que tout le monde ait en tête. C'est toujours plus facile d'avoir le nom après avoir entendu parler les gens quand on ne sait pas mettre un visage sur un nom. Donc le plus à gauche, Hermine Lefèvre. C'est bon, je ne l'écorche pas ce coup-ci. Ensuite, Laetitia Danaé, Florie Morin et Guylain Desnouets qui ont pu échanger avec nous aujourd'hui. Vous pouvez retrouver leurs ouvrages en librairie et vous pouvez aussi les retrouver en dédicace, on va dire après la pause déjeuner. On va les laisser souffler et manger. Et je pense que c'est important pour certaines. Et juste une petite info pour sur les traces des Willan. Florie a un train et donc départ à 13h30. Donc là, elle va manger. Elle pourra être 13h30 à la librairie. Donc si vous voulez échanger sur les traces des Willan, sur les articles qu'elle a écrits sur les traces des Willan, sur sa thèse. Voilà, la fenêtre est serrée, 13h-13h30 à son stand en librairie. Pour vous, il me semble que vous êtes là encore un peu jusqu'à 15h pour Laetitia et jusqu'à 17h pour Hermine. Donc c'est bon, vous avez un peu plus de marge pour aller faire dédicacer vos livres. Merci beaucoup à tous et à toutes.